Europe 1.
Heures sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël. Vous souhaitez...
Oui,
c'est moi, en vrai. Vous souhaitez décompresser sans pour autant mettre votre cerveau en veille. Vous êtes au bon endroit. Historiquement vôtre, c'est chaque après-midi une manière différente, résolument décomplexée, de parler d'histoire. En effet, si pour vous l'histoire, c'est Monsieur Groumard, votre prof principal de première S... Type acariâtre qui, lorsqu'il y avait un peu trop de grabuge dans la classe, laissait échapper des réflexions qui trahissaient un peu trop ses préférences politiques.
Ah, tout ce qui s'est passé en France, nous aurions bien besoin d'un Franco.
Alors chassez de votre esprit ce vilain souvenir, car l'histoire peut être rieuse si elle est portée par un prof sexy. Or, en matière de prof sexy, j'ai pour ainsi dire sous la main le top du top. Mi-français, mi-luxembourgeois, la peau tannée par la réverbération du soleil grec dans sa piscine à débordement de Paros, il a le charme français, l'élégance britannique...
Avec une touche de sensualité italienne qui en corrige un peu la raideur.
Oh, voici Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. J'adore comment vous détournez les émissions de Secret d'Histoire.
J'ai jamais autant regardé Secret d'Histoire.
Et vous prenez des phrases comme ça et vous les exploitez. Le meilleur. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, comme d'habitude, trois personnages qu'a priori rien ne rassemble. Accrochez-vous, je vous demande le fil d'Ariane entre ces trois personnages. Pythagore, Léonard de Vinci et Mike Tyson.
Ah non, alors là Stéphane, je suis pour ainsi dire KO debout comme Holyfield, le type à qui Tyson avait un soir bouffé une oreille sur le ring. Quel lien peut-il y avoir entre ces trois personnages? Est-ce que vous êtes sûr que notre rédacteur en chef n'a pas perdu la tête ou qu'on a tout simplement un rédacteur en chef d'ailleurs?
Je vous rassure, notre rédacteur en chef a toute sa tête. Je vous laisse vous creuser la vôtre pendant que je vous annonce le reste du programme.
S'il vous plaît.
Au sommaire aujourd'hui, et comme chaque jour, tel votre concierge en bas de l'escalier qui veut tout savoir et tout voir, Clémentine Portier-Kaltenbach nous fait pénétrer, si je puis dire, sur la pointe des pieds dans l'intimité de l'histoire. Et dans celle de Victor Hugo en particulier.
C'est que j'ai visité son musée à Amiens, à Victor Hugo, cet été.
Ah, c'est intéressant. Enfin, je ne sais pas si le public y intéresse vraiment.
D'accord, mais faites semblant au moins, Stéphane.
Oui. Si, ça m'intéresse. Vous
me
raconterez vos vacances.
Je vous raconterai ça.
Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, viendra quant à lui exciter nos papilles.
Et nous jouerons, enfin, surtout Stéphane, vous jouerez à notre quiz pour lequel les Américains souhaitent déjà acquérir les droits. Le seul jeu qui permet de savoir si vous y connaissez vraiment en histoire, Stéphane. Et parfois, on a des surprises.
Oui, alors Mathieu, ça y est, vous avez percuté le point commun entre Pythagore, Léonard de Vinci et Mike Tyson.
Le nombre d'abonnés sur Instagram.
Non, mais non Mathieu, ils étaient tous les trois avant-gardistes. En effet, Pythagore, Léonard de Vinci et Mike Tyson sont tous les trois végétariens.
Oh. Lui, Stéphane, il n'est certainement pas végétarien. Son nom, aux consonances lusitaniennes, trahit une longue lignée de solides bouffeurs de croquettes de morue. Voici le seul, l'unique, celui que les autres nous envieront le jour où ils auront réalisé qu'on l'a, le David Castello-Lopez.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre. Une émission garantie 100% légumes frais aujourd'hui, dans laquelle on vous raconte les destins de trois végétariens célèbres. Pythagore, Léonard de Vinci et Mike Tyson. Oui, oui. Mais avant ça, comme chaque jour, on remonte aux origines d'un objet de notre quotidien. Avec vous, David Castello-Lopez. Bonjour, David.
Bonjour. Alors, Mathieu, vous avez été à l'école primaire dans les années 80, je pense.
C'est juste.
Stéphane, vous, dans les années 70. Est-ce que vous avez utilisé des effaceurs?
Ah bah oui,
souvent,
évidemment.
Surtout avec toutes les fautes que je faisais.
Est-ce que vous vous souvenez de cette farce hilarante qu'on faisait avec les effaceurs?
Il y en avait plusieurs.
Généralement, c'était peut-être plus le cas maintenant, tout le monde écrivait au stylo à plume sur des feuilles à grands carreaux avec une marge rouge qui permettait aux professeurs d'écrire des trucs du genre imprécis, faux, honteux ou encore vous finirez en prison, Castello-Lopez. Non, vous n'avez pas ça sur le côté?
Non.
Mais bon, avant qu'il ait écrit tout ça, la feuille était vierge et il y avait une farce trop bien qui consistait à faire la chose suivante. On prenait un paquet de feuilles vierges appartenant à un camarade et soigneusement, on faisait sur chacune d'elles de grands traits d'effaceurs en zigzag.
Vous avez fait ça, vous?
Mais oui, mais
vous avez jamais fait ça, Stéphane?
Non, jamais.
Vous étiez tellement gentil.
Ça prenait longtemps, hein. Ça pouvait prendre une petite demi-heure, mais c'est quoi une demi-heure hein, quand le but c'est de nuire à autrui? Et bien sûr, au cours d'après, quand votre ami sortait une feuille pour prendre des notes, eh bien, il se rendait compte rapidement qu'un mot sur deux s'effaçait à moitié au moment où il écrivait, ce qui le mettait hors de lui. Et on riait, car encore une fois, le malheur des autres, c'est quand même super. Alors, les effaceurs.
Très belle citation.
Tout à fait. Les effaceurs, ça existe toujours. Hein. J'en ai amené un ici. Et il y a même encore les deux marques phares de mon enfance. Le Reynolds, qu'on reconnaît à son décor bleu et blanc en spirale. Et surtout, surtout, le Super Pirate.
Ah, le Super Pirate.
Dont génial. Le logo, à l'époque, c'était un pirate du 18e siècle, avec bien sûr un bandeau sur l'œil, car tous les pirates sont borgnes, sinon c'est pas des pirates. Un pirate borgne, donc, qui donnait une sorte de coup de poing en avant, censé dénoter à la fois la virilité et le sens de l'aventure. Tout ça, ça me paraissait parfaitement cohérent quand j'avais 12 ans. Mais maintenant, quand j'y pense, quand même, beaucoup moins, car je me demande, je pense de façon très légitime, ce qu'un pirate peut bien foutre avec un effaceur.
C'est vrai.
Surtout un pirate du 18e siècle, vu qu'au 18e siècle, il n'y avait même pas d'effaceur.
On sent Stéphane un peu perdu dans cette chronique, parce que je crois qu'à son époque, il y avait de l'effaceur, ou
bien
c'était
sûr.
Encore
non,
ça,
la plus grande. On avait ça, l'effaceur.
Ah bah, oui, bah voilà.
Déjà.
Oui,
comme quoi.
Oui, j'ai connu ça.
Mais bon, donc les pirates du 18e siècle qui utilisaient des effaceurs, voilà, bon, c'était les années 80, hein, c'était n'importe quoi. Il y avait des filles seins nus en prime time dans le Colaro Show.
C'était la belle époque.
C'était une autre époque. Reste la question que moi j'ai envie de me poser, hein, comme toujours, c'est mais d'où ça vient l'effaceur? C'est qui le premier qui en a fabriqué? Et comme souvent, ça dépend un peu de quoi on parle. Au début du XXe siècle, il y avait déjà un système pour effacer l'encre qui fonctionnait avec deux produits qu'on appliquait l'un après l'autre. Il y en avait un qui ramollissait l'encre et l'autre qui l'enlevait vraiment. Mais c'était chiant, il y en avait pour un quart d'heure, c'était insupportable. Et à partir de là, il y a deux histoires concurrentes qui s'opposent et qui sont portées chacune par l'entreprise qui a intérêt à les porter. La première, c'est celle de Pélican qui fabrique les super pirates. On est tenté de les croire d'ailleurs, Pélican, parce que c'est une marque allemande.
Ah oui,
ça se prononce Pelican, en fait. Or, les Allemands sont fiables, hein, même si des fois ils sont un petit peu excessifs. L'histoire que raconte Pelican, c'est ouais, en fait, c'est nos chimistes qui ont inventé le produit qui efface l'encre dans les années 30. À l'époque, on appelait ça le Tintentod. Ça veut dire la mort de l'encre.
Vous m'avez l'air de parler également bien allemand, c'est le cas?
Je suis polyglotte. Voilà. Et selon Pélican, c'est eux aussi qui ont inventé l'effaceur qu'on connaît tous et que vous avez devant les yeux, qui efface d'un côté donc et qui réécrit
bien
de
sûr,
l'autre.
Oui.
Voilà.
Quand
ça, c'est ça le vrai coup de génie.
Oui. Et alors quand c'était en 1977, qui est aussi l'année de naissance d'Emmanuel Macron. Comme quoi?
Comme quoi quoi?
Mais comme quoi, rien, Mathieu, je peux faire des sous-entendus énigmatiques des fois, non?
Ah ouais, vous êtes très mystérieux.
C'est quand même dingue, ça. Bon, l'autre histoire, c'est celle donc qui est racontée par Reynolds, le concurrent de Pélican. Reynolds, qui pendant presque 50 ans était une entreprise française. Et selon Reynolds, évidemment, bah, c'est Reynolds qui a inventé l'effaceur. Avec cette anecdote touchante rapportée dans un article de La Croix, je cite, hein. En 1975, les chercheurs de Reynolds soumettent le projet d'effaceur à Pierre Regnault, le fils du fondateur du groupe, qui l'accueille avec scepticisme. Jusqu'au jour où, de retour du bureau, il trouve l'une de ses filles en larmes, désespérée parce qu'elle avait taché son cahier. Elle testa alors le stylo magique et s'enthousiasma pour sa trouvaille. La décision de lancer le produit fut aussitôt prise.
On croit beaucoup à cette version.
Ça sent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça sent le gros mytho storytelling du service marketing de Reynolds. Et en plus, l'effaceur réécriveur de Reynolds n'a pas été commercialisé avant 1979. Donc, dans l'état actuel de mes connaissances, l'inventeur de l'effaceur moderne, eh bien, c'est Pélican.
Encore une victoire de l'Allemagne sur la France.
Ça fait
vous pensez pas qu'on en a eu assez ces derniers temps?
On prendra notre revanche. Merci David. On n'efface rien, on garde tout et puis on vous retrouve demain naturellement.
Tout à fait.
Europe 1.
À suivre dans l'histoire de la pensée, rares sont ceux à avoir combiné mathématiques et philosophie. Il y a Émile dans La Cité de la Peur.
On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si, on peut tromper une fois une. Non. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on
oui,
peut tromper.
Oui, et puis il y a l'autre, un poil moins connu qu'Émile dans La Cité de la Peur, mais tout aussi bluffant. Il s'appelait Pythagore.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre. 2 heures de bonne humeur apprenante pour découvrir 3 personnages historiques qu'a priori tout oppose. Ils ont pourtant un point commun. Aujourd'hui, Pythagore, Léonard de Vinci et Mike Tyson.
Et Stéphane, pour notre premier grand récit du jour, on commence par le moins musclé des trois, à savoir Pythagore.
Oui.
Historiquement vôtre. Le récit.
Ce qu'on connaît le mieux de notre personnage du jour, c'est ça. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.
Stéphane, si j'ai fait une émission d'histoire,
oui,
c'est parce que j'aime l'histoire, pas les maths. J'ai eu un bac L, je vous rappelle.
Bon, je vais vous parler d'histoire, Mathieu. L'histoire de Pythagore, dont je viens de vous rappeler le célèbre théorème que vous avez dû apprendre en classe de 4e, je vous le rappelle.
Et oublié en classe de 3e.
Oui. Sachez cependant
que si le maître de Samos a bien énoncé ce principe, il ne l'a pas découvert.
En plus,
ce sont des tablettes en argile gravées par les Babyloniens en 1800 avant notre ère qui le prouvent. Pythagore est mathématicien, mais il est aussi un philosophe. Et son influence est si grande dans la Grèce antique que des centaines de disciples appliquent chaque jour les préceptes de vie qu'il définit. Et parmi ces préceptes, il y a celui d'exclure tout morceau de viande de son alimentation. Pythagore, je vous le dis carrément, est la première grande figure du végétarisme.
Alors que je pensais que c'était Brigitte Bardot. Comme quoi, heureusement que vous êtes là, Stéphane.
Ce n'est qu'un début. Sachez d'ailleurs qu'avant l'invention du mot végétarien, on qualifiait ceux qui ne mangeaient pas de viande de pythagoréens. Mais qui était réellement Pythagore de Samos ? Peut-on dire qu'il était un fervent défenseur des animaux à une époque même où les sacrifices en l'honneur des dieux de l'Olympe étaient si courants ? On ne sait que peu de choses sur la vie de Pythagore, car jamais aucun document écrit de sa main n'a été retrouvé.
C'est déjà terminé, Stéphane. C'est un peu court, mais ce n'est pas inintéressant.
Non, je dis simplement que les principaux biographes de Pythagore ont raconté sa vie plusieurs siècles après sa mort, jalonnant son existence de mythes et de légendes, mais que lui-même n'a rien écrit, Mathieu. Ce que l'on sait, résumons, Pythagore naît sur l'île grecque de Samos en 580 avant notre ère. Son père, Nésarchos, est un graveur de pierres précieuses et on dit de sa mère Parthénis qu'elle est la plus belle des Samiennes. L'histoire de sa venue au monde nous emmène à Delphes, à la rencontre de la Pythie, l'un des personnages les plus emblématiques de la Grèce antique. L'oracle de la célèbre prophétesse apprend à Nésarchos et Parthénis qu'ils attendent un fils et que son destin sera extraordinaire. Le bien nommé Pythagore, littéralement celui qui a été annoncé par la Pythie, donc de Delphes, surpassera le commun des mortels par sa sagesse et sa beauté. L'éducation du jeune Pythagore, promis un incroyable destin, est donc confiée au plus illustre maître de l'époque. Il parcourt la Grèce et reçoit notamment les enseignements de Thalès de Milet, l'un des sept sages de la Grèce antique. Puis, il entame une série de voyages qui l'emmène dans les hauts lieux de la sagesse de l'Égypte à Babylone.
Quand vous me dites Babylone, je suis sûr que vous aussi vous pensez tout de suite à...
By the rivers of Babylon.
Il a dansé là-dessus et il a groové.
Enfin, il a voyagé en tout cas. Pythagore s'établit enfin dans la cité grecque de Crotone, devenue aujourd'hui la Sicile. Vénéré par les foules qui admirent ses discours et louent sa grande érudition, Pythagore fonde une école dont les élèves sont appelés les Pythagoriciens. Il y dispense une formation intellectuelle complète basée essentiellement sur la géographie, la médecine et évidemment, votre matière préférée Mathieu, les mathématiques.
Ça suffit les mathématiques Stéphane.
Alors, pour que les enseignements du maître portent leurs fruits, ces quelques 300 adeptes doivent se rassembler pour vivre de jour comme de nuit sous un même toit, vous imaginez. Le quotidien
mais
est
non,
pas...
Mais moi j'imagine rien du tout, mais visiblement vous, ça s'agite dans votre tête.
Hein. Ah bah, pas que dans la tête, le quotidien y est parfaitement régi, et ce jusque dans le contenu des assiettes. Dans la communauté des pythagoriciens, le régime alimentaire est très strict. Le maître et ses disciples se nourrissent de céréales, de légumes et de miel et excluent de leur repas tout morceau de viande. On dit d'ailleurs de Pythagore qu'il est l'un des précurseurs de la diététique tant ses connaissances sur la valeur nutritive des aliments sont précises. Pythagore et ses compagnons adoptent aussi une tenue particulière. Pour ne jamais avoir recours à la laine, leurs vêtements sont faits de lin blanc et plutôt que de porter du cuir, ils se chaussent de souliers faits d'écorce d'arbre.
Mais il invente donc le mocassin à gland, déjà.
Oui.
C'est très tôt. Hein.
C'est drôle. Ils sont surtout les précepteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le véganisme, qui va bien au-delà, vous le savez, des choix alimentaires des végétariens. Enfin, plutôt que d'honorer les dieux de l'Olympe en faisant couler le sang par des sacrifices, Pythagore et les siens leur offrent des gâteaux au miel, font brûler de l'encens ou les célèbrent à travers des chants.
C'est beaucoup plus sympa quand même, c'est vrai.
Bah oui, mais à Crotone, ce refus de prendre part aux grandes cérémonies qui rythment la vie politique et religieuse attise les moqueries et suscite bon nombre de commentaires. Alors pourquoi Pythagore prend-il le risque de se trouver ainsi en marge de la cité ? Si le maître refuse de manger des animaux et enjoint ses disciples à l'imiter, c'est parce qu'il est persuadé qu'une fois la mort venue, les âmes migrent d'un corps à un autre. Manger de la viande, c'est ainsi prendre le risque de se nourrir d'un proche disparu dont l'âme aurait migré vers une enveloppe animale. Perspective que Pythagore craint par-dessus tout. On raconte qu'un jour, alors qu'il passe près d'un homme maltraitant son chien, Pythagore lui ordonne d'arrêter, car dans les aboiements de l'animal, il a reconnu la voix brisée d'un homme qui fut jadis son ami.
Et moi, ça m'a fait pareil avec un bichon maltais un jour. J'ai reconnu tout de suite mon ex-belle-mère. Immédiatement, j'ai senti que c'était elle. Je me suis dit, n'approchons pas de ce bichon.
Je sens que vous avez du lourd à raconter. Quoi qu'il en soit, dans les eaux comme sur la terre, Pythagore exclut l'idée de s'attaquer à un animal. La chasse et la pêche sont condamnées dans ses discours et dépeintes comme des activités barbares. Un jour, alors qu'il rencontre un pêcheur dont les filets renferment une prise fructueuse, Pythagore prédit sans jamais les compter le nombre exact de poissons captifs. En échange de cet incroyable présage, il fait promettre au pauvre homme de relâcher sa pêche en mer. Si la réincarnation est au cœur de la foi prônée par le maître de Samos, c'est qu'il a lui-même hérité d'un don merveilleux que je vous dévoilerai dans un instant.
Europe 1. Vous aussi, Stéphane, vous avez hérité d'un don merveilleux qui suscite souvent chez les femmes la réaction suivante.
Elle est magnifique.
Mais c'est une autre histoire qui n'a pas sa place dans Historiquement Vôtre, en tout cas, tant qu'on sera diffusé à cet horaire.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.
Alors, mon cher Stéphane, une fois de plus, vous vous êtes interrompu dans votre récit au moment le plus croustillant.
Oui, je vous ai dit que Pythagore avait un don.
Mais lequel ?
Je ne vous ai pas menti, l'incroyable don de Pythagore, c'est celui de se remémorer ses vies antérieures.
Ah, carrément !
On raconte qu'avant de renaître à Samos, l'âme du maître a habité les corps de glorieux personnages antiques. C'est drôle, vous parlez aux gens de la réincarnation,
ils ont toujours été,
ont toujours été des gens
ils ont
très
jamais
connus.
Été
jamais Souillon ou comme moi, un gueux, vous voyez ? Enfin bon,
oui, il aurait été
Étalides, archer talentueux et fils d'Hermès, le messager des dieux, mais aussi Euphorbe, héros de la guerre de Troie.
Et vous, Stéphane, vous vous souvenez de vos vies antérieures ? À RTL, par exemple. Ça vous revient ou pas ?
Non, tout ça, c'est une légende.
Ça n'existe pas, la vie antérieure.
Moi, je mangeais les légumes par la racine quand j'étais dans une autre vie. Alors, au-delà du mythe, si l'histoire nous apprend que Pythagore fut l'un des premiers à s'offusquer des barbaries commises à l'encontre des animaux, il reste surtout un philosophe qui en inspira tant d'autres, comme Plutarque ou Socrate, et un mathématicien reconnu. Pourtant, au fil des années, le prestige et l'influence grandissante de Pythagore attisent la jalousie d'un grand nombre d'habitants de Crotone, qui voient d'un très mauvais œil la puissance de cet étranger. On l'accuse notamment d'ingérence dans les affaires d'État. Contre Pythagore, la lutte s'organise, et c'est un certain Silone qui la mène. Lui-même exclu de la communauté pour indignité, il profite des instabilités politiques qui bouleversent alors la Grande Grèce pour soulever une partie du peuple contre les pythagoriciens, jusqu'à provoquer leur mort par dizaines dans un terrible et effroyable incendie. La fin de Pythagore, comme son existence, est entourée de légendes. Si certains affirment qu'il périt dans ce même incendie, d'autres pensent qu'il est massacré lors de sa fuite, rattrapé par les crotoniates alors qu'il refuse de traverser un champ de fèves, aliment qui l'exècre, il faut bien le dire.
C'est vrai qu'un végétarien qui n'aime pas les fèves, Stéphane, ça peut en énerver certains.
Beaucoup s'accordent toutefois a situé sa mort à Métaponte vers l'année 495 avant notre ère. Pythagore aurait donc vécu plus de 80 ans et on préfère penser qu'il mourut de sa belle mort avant peut-être de poursuivre le cycle de ses réincarnations pour renaître dans les corps d'autres célèbres végétariens que l'histoire a connus.
Et d'ailleurs, Stéphane, est-ce que ça ne serait pas tout simplement Pythagore que l'on reçoit aujourd'hui, réincarné dans le corps affûté, le visage hâlé et les cheveux au vent de notre invité ?
16h, 18h sur Europe 1. Historiquement Vôtre.
Oui, pour aller plus loin dans Pythagore, si j'ose dire, on accueille Aymeric Caron, journaliste et militant antispéciste végétarien depuis plus de 30 ans maintenant. C'est ça, Aymeric ?
À peu près, bonjour.
Bonjour. Il y a quelques années, vous aviez publié No Steak chez Fayard ou encore Antispéciste aux éditions Don Quichotte. Vous revenez avec un nouveau livre, La Revanche de la Nature, aux éditions Albin Michel. Alors, militant de la cause antispéciste, est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots de quoi il s'agit ?
Le spécisme, c'est une philosophie de vie qui est partagée par quasiment tout le monde en Occident et qui consiste à considérer qu'on fait des différences parmi les animaux non humains, ce que j'appelle les animaux non humains. On fait un tri et on considère que certains de ces animaux doivent être bien traités. Ce sont aujourd'hui nos animaux de compagnie, les chiens, les chats, donc ils font partie de notre famille, on les emmène chez le vétérinaire, on les emmène en vacances, on est très triste lorsqu'ils décèdent, etc. Vraiment, voilà, on est très très attentionné. Et puis les autres, des animaux qu'on peut considérer comme des objets, comme des choses, ce sont notamment les objets, les animaux qu'on consomme, les cochons, les poules, etc., etc. Donc ça, c'est une attitude spéciste, parce qu'en réalité, on se rend compte qu'il n'y a pas de justification à faire ce tri, puisque ce sont des animaux qui partagent vraiment les mêmes degrés d'intelligence, de sensibilité, etc. Ça, c'est vraiment un cas de spécisme. Et puis, le spécisme également, c'est de considérer qu'en toute circonstance, en toute matière, ce qu'on fait subir à un animal non humain sera toujours moins grave que ce qu'on fait subir à un humain.
pour vous, il n'y a aucune différence.
Et l'antispéciste, donc, se bat contre cette logique.
Mais est-ce que vous allez, par exemple, on comprend pour une vache, par exemple, on comprend pour, je sais pas, un singe, mais est-ce que pour une, par exemple, l'été, quand les guêpes viennent nous déranger, quand on mange notre melon, vous, par exemple, Aymeric Caron, vous ne tuez pas de guêpes?
Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Et puis c'est drôle parce que le sujet est quand même très vaste, très important. Mais c'est vrai que lorsqu'on commence, c'est curieux que la première question que vous me posiez sur ce sujet, qui concerne quand même des milliards d'animaux, en réalité des dizaines et des centaines de milliards d'animaux qui sont tués chaque année pour notre consommation, ce soit ce qu'on appelle un cas marginal, le cas des insectes. Je veux bien qu'on en parle.
On s'en fout des insectes.
Non, je n'ai pas dit qu'on s'en foutait. J'ai dit simplement, c'est vraiment pas l'essentiel de notre sujet.
Mais moi, je pense à tous nos éleveurs qui, par exemple, élèvent des animaux pour que les gens les mangent, et alors eux, ils vont faire quoi?
Il y a la dimension économique aussi.
Oui, on peut en parler avec grand plaisir. Et moi, justement, j'ai vraiment envie d'en discuter avec les éleveurs eux-mêmes qui sont aujourd'hui, alors que donc on mange beaucoup de viande,
moins
en
qu'avant.
France, oui, c'est quand même 80 kilos par an pour un Français, par exemple, un peu moins de 90 kilos. Qui sont dans une situation absolument catastrophique, vous le savez Stéphane. Hein. Ils n'arrivent pas aujourd'hui, la plupart d'entre eux, à vivre de leur métier. Ils ne vivent pas de leur métier et la somme qui leur est octroyée, parce qu'en plus souvent c'est sous forme de subventions, subventions de l'Europe, etc., c'est une somme qui couvre à peine le coût de leur travail. Donc c'est une situation absolument scandaleuse, aberrante. De toute façon, aujourd'hui, les éleveurs sont dans une situation dramatique qui demande à être complètement repensée. Alors quitte à repenser cette situation, pourquoi ne pas travailler avec les éleveurs vers une transition agricole qui permettra à ces éleveurs de devenir agriculteur, par exemple, c'est-à-dire de cultiver des végétaux, ou pourquoi pas carrément, pour certains d'entre eux, de changer de métier, peut-être. Je crois que c'est la volonté de certains d'entre eux.
En tout cas, Aymeric, il y a une chose qui est juste, c'est qu'aujourd'hui, on sent monter dans l'opinion une sensibilité pour l'animal, c'est
oui,
vrai.
Oui, mais non, puisque quand on regarde, on écoute l'histoire de Pythagore, on voit bien que dès la Grèce antique, il y avait cette sensibilité aux vivants, ces gens qui étaient concernés par les animaux, qui avaient envie. Et on a l'impression que finalement, même si on vit une petite période historique là où on s'y intéresse encore, pendant des siècles, on s'y est plus du tout intéressé.
Oui,
et ça pourrait très bien revenir. C'est ça qui est inquiétant.
D'abord, on est, pour ce qui concerne en tout cas l'Europe, l'Occident, on va dire, au début d'une nouvelle ère spirituelle, selon moi, en ce qui concerne notre rapport aux animaux. C'est vrai, vous avez cité Pythagore, c'est vrai qu'il y avait chez les Grecs, c'était pas le seul, il y a eu un certain nombre de personnages comme ça qui ont effectivement prôné l'idée qu'il fallait respecter les animaux, ne pas les tuer, ne pas les manger, etc. Puis ensuite, c'est vrai que en Europe, cette idée a été largement oubliée. Il y a eu quelques penseurs quand même qui ont essayé de nous faire des piqûres de rappel. Je pense à Montaigne, notamment au XVIe siècle, qui a écrit de magnifiques pages justement sur le respect que nous devions avoir pour les animaux, sur l'intelligence des animaux. Mais c'est vrai qu'il a été assez isolé.
Voltaire aussi ne mangeait pas d'animal.
Alors Voltaire, c'est assez controversé. Le problème, c'est que quand vous allez sur Internet, vous allez trouver beaucoup de noms, de végétariens prétendus. Et quand on fait des recherches, c'est assez compliqué. Donc, Voltaire, c'est controversé. Voltaire a écrit des très belles pages, lui aussi, sur le respect des animaux et sur l'amour des animaux. Et on ne sait pas trop exactement. On sait qu'en effet, dans ces années Ferney, il y avait des animaux là-bas qui étaient destinés à être mangés dans des repas qu'il faisait pour des amis. Voilà, il y a une controverse sur son cas, mais s'il est végétarien, c'est peut-être à une courte période de sa vie, mais c'est peut-être pas non plus un militant du végétarien.
Stéphane, on ira vérifier tout ça au château de Ferney-Voltaire,
oui,
puisque j'ai étudié, n'est-ce pas, au collège lycée de Ferney-Voltaire.
Non, vous y étiez.
Je les embrasse tous. J'y étais, Stéphane. Pourquoi? Ça vous intéresse?
Ah non, oui, mais j'adore Ferney-Voltaire, la maison de Voltaire.
Nos auditeurs, en revanche, s'en foutent un peu. À tout de suite avec Aymeric Caron.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
On parle de Pythagore aujourd'hui, mais la liste des végétariens dans l'histoire est longue, on vient de le dire. Vous êtes renseigné, Aymeric Caron, sur celles et ceux qui étaient végétariens bien avant vous, les cas bien renseignés, je veux dire, pas comme Voltaire qui était visiblement controversé.
Quand j'ai écrit Nosteg, oui, j'avais fait une petite recherche. Il n'y en avait pas tant que ça, des végétariens avérés. Lamartine, par exemple, était végétarien de par sa mère, qui l'avait éduqué ainsi. Mais il raconte justement dans ses mémoires qu'il a dû, à un moment, il a été forcé au collège, on l'a obligé à manger de la viande, ce qui l'a beaucoup contrarié. Marguerite Yourcenar, elle était végétarienne, disait-elle, à 95%. Donc là, c'est plus récent. Hein. Et après, on a des cas de gens qui sont engagés pour les animaux sans être forcément eux-mêmes végétariens, je pense. Et dans la littérature, les deux cas les plus célèbres en France, en tout cas, c'est Hugo, bien sûr, et Zola, qui étaient tous les deux des grands amoureux des animaux. Hugo, qui a été président d'honneur de la première société anti-vivisection, qui a également permis que la première loi de protection animale en France soit votée en 1850, ce qu'on appelle la loi Gramont. Qui a écrit des très belles pages lui aussi sur contre la chasse par exemple, voilà. Mais des végétariens notables, Il n'y en a pas eu tant que ça, en tout cas. Vous avez peut-être retrouvé des noms, hein, je vais vous dire. Après, il y a des légendes. Je sais que nous allons parler, par exemple, de Léonard de Vinci, me semble-t-il.
Oui, après.
Juste après, je vous ai entendu. Lorsque j'ai fait mes recherches, je n'ai pas été convaincu par ce que j'ai trouvé. Il faut se méfier des citations apocryphes. Donc, je suis pas persuadé.
Il y a une chose, c'est que ça varie. Le rapport aux animaux varie selon les latitudes et les pays. Par exemple, il y a des pays où on considère les chiens et les chats comme sacrés. Je ne parle pas de l'Égypte ancienne, mais par exemple, il y a des palaces qui leur sont dédiés au Canada. Et dans le même temps, on les mange en Chine. Vous savez, il y a...
Pas qu'en Chine, il y a encore beaucoup de pays.
Au Vietnam aussi.
En Asie... Et dans d'autres endroits encore dans le monde.
Et donc, comment expliquer ça? Parce que c'est au nom des traditions culturelles qu'on peut commettre parfois des atrocités sur les animaux. Je ne vais pas vous engager sur le chemin de la corrida, mais c'est vrai que les défenseurs de la corrida disent toujours
c'est
une tradition.
C'est beau,
et là, voilà. Moi, j'ai encore été interpellé par les défenseurs de la chasse à courre en me disant oui, mais c'est la vénerie, c'est une tradition. Mais on peut parfois s'affranchir de certaines traditions.
Le problème de la tradition, c'est que ça ne peut pas être une justification morale à une action, la tradition. Ça peut être effectivement un témoignage de notre histoire. On peut considérer que certaines traditions doivent être préservées pour un certain nombre de raisons, lorsqu'elles sont justes, mais lorsque le cours de l'histoire et le cours de l'évolution de la pensée nous démontrent qu'une tradition n'est plus en adéquation avec son époque, il faut l'oublier. Il y a beaucoup de traditions qu'on a oubliées. À la Saint-Jean, par exemple, qu'est-ce qu'on faisait traditionnellement, Stéphane ? On noyait, on brûlait des chats. C'était la tradition en France. Ça s'est fait très longtemps, jusqu'au 18e, même 19e siècle, je crois. Ça se faisait encore dans certaines villes de France. Heureusement qu'on a oublié cette tradition, qu'on l'a abandonnée. J'espère que plus personne aujourd'hui ne se lèverait pour la défendre.
Mais je pense que là, vous avez gagné. C'est gagné, Amérique, là, je crois.
Donc voilà.
Mais vous êtes d'accord pour les chiens, par exemple, il y a des pays où on les mange. Et nous, peut-être, on en fait trop.
Non, je ne suis pas d'accord pour qu'on mange les chiens, Stéphane.
Vous avez mal compris.
L'antispécisme, qu'est-ce que c'est? En revanche, vous posez une très très bonne question. C'est-à-dire que vous êtes choqué, très justement d'ailleurs, du fait qu'il y a encore des humains qui mangent des chiens et des chats sur cette planète. Et nous, Français, évidemment, on ne peut pas l'accepter parce que nous avons appris à regarder ces animaux. Nous avons appris à vivre avec eux. Nous savons qui ils sont. Bon, d'autres pays n'ont pas encore fait complètement ce chemin, même si par exemple, si on prend un pays comme la Chine, il y a aujourd'hui des associations de défense des animaux qui se constituent. Mais en revanche, ce que je dis, c'est ce que nous jugeons scandaleux à l'égard des chiens et des chats, nous devrions aujourd'hui être capables de voir que c'est aussi odieux lorsqu'on le fait subir à des cochons qui sont aussi intelligents que des chiens, qui ont les mêmes
capacités. Ils sont plus proches de nous encore.
Ils sont plus proches de nous sur un plan physiologique, absolument, je le raconte dans mes livres. Ils sont plus proches de nous, au niveau des organes, par exemple. Et en termes d'intelligence, certains des tests d'intelligence qui sont faits passer aux animaux sont réussis mieux par les cochons que par les chiens. Donc voilà, ce qu'on fait subir aux cochons aujourd'hui est une atrocité absolue.
Aymeric Caron, vous restez avec nous parce que dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de Léonard de Vinci pour voir s'il était oui ou non végétarien. On va parler aussi de votre livre « La revanche de la nature ». Vous restez avec nous.
Europe 1.
Il y a l'histoire officielle, Stéphane, propre, policée, que nous a raconté Alain Decaux. Et puis il y a l'histoire officieuse, underground, que nous raconte chaque jour notre fouineuse de l'histoire, Clémentine Portier-Kaltenbach, dite l'indiscrète. Clémentine qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde et nous démontre que l'histoire ne se noue pas seulement dans la froideur des salles de réunion, mais aussi dans la chaleur des chambres à coucher. Diane de Poitiers ne disait-elle pas à Henri II
« Je te prie de faire très attention, je ne prends pas la pilule ».
Dans l'intimité de l'histoire, à tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est avec joie et ravissement, donc, cher Mathieu, que nous accueillons dans Historiquement vôtre. 2 heures pour vous raconter l'histoire sans jamais se la raconter. Une approche rieuse, mais rigoureuse des faits historiques, n'est-ce pas?
Des faits, Stéphane, qui ne se limitent pas au traité, au couronnement des uns, à la décapitation des autres. Non, ici, chaque après-midi, on vous emmène également dans l'intimité des grands de ce monde. Grâce à l'expertise et la connaissance encyclopédique d'une historienne qui était déjà présente pour Paris Match au mariage de Louis VI le Gros. Sacré souvenir, d'ailleurs.
Ah, jeune puceau. Sois vigoureux et tâche de t'employer dès la nuit de noces à besogner ta bien-aimée.
Toujours aux premières loges. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour Mathieu, mais vous avez raison. Si nous sommes là tous réunis, c'est que nous sommes de sacrés winners de l'histoire. Nous avons survécu à travers nos ancêtres à toutes sortes de maladies, maux épouvantables, de maladies, de guerres, etc. Et nous sommes là.
Et oui, on est les meilleurs.
Là, grâce à Louis VI le Gros. Non mais vous savez qu'on descend quand même tous, nous tous les Européens, de Charlemagne. Mais enfin, c'est une autre histoire.
Alors là aujourd'hui, c'est plutôt de Victor Hugo dont vous voulez nous parler.
Oui, tout à fait. Heureuse transition car Aymeric Caron citait le combat de Victor Hugo pour les animaux. animaux. Mais moi, je reviens à quelque chose nettement plus terre à terre. Hein. Le Victor Hugo et ses carnets noirs. En effet, Victor Hugo, l'homme de cœur, vous le savez, n'a jamais pu se passer de ses deux grands amours. Hein. Sa femme, Adèle, qu'il a aimée pendant 50 ans, et puis sa maîtresse, Juliette Drouet. Le problème, c'est que sa maîtresse, sa femme plutôt, n'était pas très sensuelle. Il lui disait, tu te laisses embrasser comme une victime. Hein. Vous savez, à un moment, elle l'a trompée avec Sainte-Beuve. Bon, mais parce que elle avait été estourbie par sa nuit de noces avec son hussard de Victor, de Toto. Quant à Juliette, hein, en avançant en âge, évidemment, elle prisait un petit peu moins les parties de jambes en l'air. Alors, voilà pourquoi. En plus de Juliette et Adèle, pendant 10 années, à partir de 1845, Victor Hugo ajoute à ce triangle amoureux, bien rodé, la jeune et jolie Léonie Biard. Vous savez, celle avec laquelle il a été pris le pantalon sur les mollets en flagrant délit d'adultère dans un meublé du passage Saint-Roch. Hein. Là, il a courageusement sorti sa médaille de pair de France et elle est allée faire 2 mois de prison. C'est une autre histoire, je vous raconterai une autre fois.
C'est vrai?
Alors oui, je vous le raconterai parce que c'est vraiment super intéressant, mais c'est pas encore suffisant parce que Victor Hugo est incapable de se passer de sexe. Il est un consommateur quasi pathologique de chair fraîche et avec les années, il va devenir véritablement une sorte de fauve affolé, un peu à la Henri IV, pour ne pas dire un vrai pervers pépère. Alors, comment le sait-on? Eh bien, on le sait parce que heureusement, à l'époque, l'effaceur n'existait pas. Hein. Donc, on a gardé les petits carnets noirs où Victor Hugo consignait tous ses exploits sexuels. Et l'on y trouve les noms, initiales, pseudonymes, de femmes par dizaines, soubrettes, prostituées, admiratrices, femmes du monde.
Mais il se vantait peut-être un peu.
Il en rajoutait.
Non, il n'avait pas de raison. Non, pas du tout. Parce que tout ça a été codé. Donc toutes celles qu'il a tripotées, possédées, pour ne pas dire culbutées, sont dans les petits carnets noirs.
Moi, je suis tombé sur le carnet de Stéphane. À mon avis, il y a de la fabulation.
Ah
dedans,
oui, mais lui, il a un bon effaceur pélican. Ou comme Fersen et Marie-Antoinette de l'encre sympathique. Hein. Il allait se l'acheter rue du Faubourg Saint-Honoré. Bien sûr, on pratiquait le langage codé et caché. Alors, Hugo va même quand même jusqu'à préciser les dates. Je ne sais pas si vous le faites dans votre carnet, Stéphane.
Non.
Les dates, les lieux, ce qu'il a fait avec elle, combien il a payé pour celles dont les services sont tarifés. Alors, vous imaginez, ces carnets noirs, c'était de la nitroglycérine. Imaginez qu'Aliette ou Juliette tombent sur les carnets. Alors, voilà pourquoi leur contenu, faute d'effaceur, est crypté en latin, espagnol et espéranto. EG, esper mañana todo. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une certaine Elisa Grappillo a été payée ce matin tôt. Le 2 novembre 1875, Hugo a donc alors 73 ans, il écrit SB, no será el chico hero, ce qui veut dire Sarah Bernard, pense-t-on, l'enfant ne sera pas fait. Ce qui veut dire que il s'est apparemment
c'est
Victor.
C'est un coït interruptus.
Voilà, exactement. Il s'est contenté de lutiner la comédienne, qui après tout n'a jamais 40 ans de moins que lui. Hein, bon, et l'enfant ne sera pas fait. Il n'a pas été plus loin. Vous avez raison. Alors pour être cochon.
Ça peut être. Il y a d'autres explications.
Vous nous direz. Ah, ça m'intéresse.
Ça, bon. C'est votre lecture coquine de l'histoire, mais peut-être. Que c'est...
Alors pour être cochon, on en demeure pas moins poète, naturellement. Aussi Hugo utilise-t-il des métaphores pour parler du corps féminin? Le pays montagneux désigne les seins, voyez-vous, qui parliez de Ferney Voltaire, là. 9 janvier 1868, Anne, nouvelle vue de Suisse. Le ravin ou la forêt désigne le sexe de la dame. 9 novembre, vu le ravin d'Anne Tatton. Hein, on comprend de quoi il s'agit. Alors parfois, il est un petit peu plus explicite avec une certaine Hélène. Il explique Elena Nuda. Anniversaire de Waterloo, bataille gagnée. Ah, il était en forme le Toto ce jour-là. Et quand il écrit avoir trouvé l'ermite de la chaussée d'Antin, c'est que la jeune fille était encore innocente avant d'avoir affaire à lui. 19 avril 1868, revue la forêt de Riette-Clanche. Je suis allée jusqu'à la cave. Hein. Comprenne qui pourra.
Mais oh non,
si.
Non.
Si, si.
Non.
C'est fatigant de faire l'amour 3 fois par jour, se plaint notre fringante octogénaire, sans doute. Mais comment résister à Albertine Seurant, fraîche actrice de 25 ans, et à Judith, fille de Théophile Gautier, que notre vieux satyre honore en 1883 à l'âge canonique de 81 ans. Alors sa dernière conquête, Blanche Lanvin, alias Alba, alias Sartorius dans les carnets, et son dernier rapport avec elle est noté dans le carnet le 5 avril 1885. Hugo a 83 ans. Hein. Nous sommes alors un mois avant sa mort. Quelle santé, messieurs, on vous en souhaite autant. Alors, tant que l'homme peut, tant que la femme veut, écrivait Victor Hugo. Alors quand on parcourt ces carnets, on ne peut s'empêcher de penser qu'Hugo aurait pu faire sienne cette belle phrase de Talleyrand. L'homme est une intelligence contrariée par des organes.
Merci Clémentine Portier-Kaltenbach. Vous restez avec nous Clémentine, parce que ça va être l'heure de notre célèbre duel.
Ils sont tous les deux incollables en histoire, mais lequel est encore plus incollable que l'autre? Le quiz nous permettra de trancher.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui secoue l'histoire pour vous cultiver sans vous saouler, et le moment crucial est arrivé. Notre quiz de Culture G. Une opposition frontale, sans coquille, entre nos deux experts maison, Stéphane Bern et Clémentine Portier-Kaltenbach, pour déterminer lequel des deux est le plus érudit. Une compétition redoutable, fair play les premiers jours, mais qui devient de plus en plus tendue à mesure que Clémentine enchaîne les victoires, ce qui a contraint Stéphane...
Oui, ça va.
Ce qui a contraint Stéphane, aussi gentil soit-il, à lui passer un petit message hier soir.
Si tu me doublais un jour, je te désosserai comme un gigot. Enfin, je rigole pas, je te débiterai comme un jambon.
Ces précisions ayant été apportées au règlement, je vous invite à dégainer vos neurones pour jouer à Burn to be Alive. Alors le principe de ce quiz, principe absolument novateur, révolutionnaire.
Oui, bien sûr.
Une question, une réponse. La bonne réponse vaut un point. Première question à Stéphane Bern. Stéphane, on sait que l'ancien président américain Ronald Reagan a joué dans plus de 60 films. Mais, étudiant, son premier job, c'était promeneur de chiens dans le Missouri. Vrai ou faux? C'est vous qui connaissez bien Ronald.
Non, j'ai jamais rencontré. Non. J'ai connu Nancy, mais elle ne se souvenait plus qu'elle avait...
épousé Ronald.
Oui. Je crois que c'est vrai.
Vous croyez que c'est vrai?
Oui,
comme
oui.
Quoi, votre instinct...
Mais vous savez que j'aime les chiens, donc
vous avez,
forcément...
Voilà, vous avez vraiment un feeling qui est exceptionnel, puisque c'est faux. C'est faux, par contre. Par contre,
c'est pas... C'est pas une question d'histoire, on est d'accord.
Comment
c'est,
ça c'est, tout est historique question... dans cette émission.
Non, mais
tout
c'est,
est historique.
C'est, non, mais c'est pas historique. Franchement, c'est excusez-moi, dans la biographie...
C'est l'histoire, la petite et la grande. La grande et la petite.
Oui, bah oui.
Et là, nous avons une petite histoire, Stéphane. Ne soyez pas mauvais perdant, mais c'est incroyable. Vous êtes vraiment mauvais perdant. Par contre, il a été, Ronald Reagan, maître nageur dans l'Illinois. Comme quoi vous n'étiez pas très loin, la légende dit qu'il a secouru 77 personnes et qu'à chaque fois il faisait une petite croix sur un rondin de bois, chaque fois qu'il sauvait quelqu'un.
Ouais. Oui. Comme Victor Hugo sur ses carnets, c'est beau.
À un état près, vous étiez bon. Question numéro 2 pour vous Clémentine. En 1927, le drapeau officiel de l'Alaska est choisi. C'est l'empreinte d'un sabot fait par un authentique caribou. Vrai ou faux?
L'Alaska, un caribou. Oh, je veux dire vrai, parce que le drapeau de l'Alaska, je veux dire, c'est.
Une vraie.
Ça m'échappe
Aymeric
un peu.
Aymeric Caron, vous pensez que c'est vrai? Vous pouvez venir en aide à Clémentine.
Je me demandais, mais pourquoi aller vous chercher ce genre de questions?
C'est pas moi, c'est la personne qui prépare ce quiz qui est un esprit malade.
Le Canada, c'est une feuille d'érable, pourquoi
non,
pas pour l'Alaska?
J'aurais dit non, moi, mais.
Vous auriez dit non. Ouais. Et vous avez dit oui.
Moi, j'ai dit oui.
Vous avez dit oui, c'est Aymeric Caron qui gagne un point et qui rentre dans le quiz. Puisqu'il le mène, c'est la première fois que l'invité entre dans le quiz. Et c'était faux.
Et vous aviez une réponse à proposer, Mathieu Noël?
Non, moi, heureusement qu'on met les réponses, parce que sinon, ça serait pas glorieux. C'est une étoile polaire sur fond bleu, dessiné par un garçon de 13 ans après un concours. Voilà une information que tout le monde aura oubliée dans 5 minutes.
Non, pas du tout.
Attention Stéphane, l'heure est venue de redorer un peu votre blason. Redorer le blason, une expression qui vient de... Non, ça
on verra plus tard.
En 1942, la France est occupée par l'Allemagne. Jusque-là, vous étiez au courant.
Oui.
Les nazis organisent l'été une course de vélo remplaçant le Tour de France. Il s'appellera le Circuit de France. Vrai ou faux?
Moi, ça doit être vrai.
On n'a pas le droit au cheminement intellectuel qui nous mène à cette
conclusion.
On a la réponse directement.
Mais...
C'est vrai.
Oui.
Vous avez gagné un point, Stéphane. 2200 km, donc plus court que le Tour de France. Il est passé par Le Mans, Limoges, Clermont-Ferrand et Lyon. Et entre autres, en 1943, l'occupant allemand ne rééditera pas l'expérience.
Il n'est pas passé par Vichy.
Il y avait d'autres choses. Oui, mais c'était une étape de montagne pour eux. Question numéro 4. Attention, Clémentine, c'est à vous. Est-ce qu'Émile Zola aurait pu se beurrer la biscotte? En clair, est-ce que la biscotte a été inventée suffisamment tôt pour Émile? Oui ou non?
Alors, écoutez, ça n'est pas impossible parce que je sais que dans la recherche, la madeleine n'est pas en fait une madeleine, mais un pain grillé ou un genre de biscotte. Et s'il avait survécu à son empoisonnement, à son, puisqu'il est mort asphyxié, Zola, il aurait éventuellement pu manger des biscottes, je dirais oui.
On visualise, vous voyez, les rouages dans son cerveau et toute la logique qui se déploie comme ça. C'est fascinant. Pourtant, ce n'est pas la bonne réponse.
Mais, il aurait pu manger du pain grillé, alors non, c'est comme une biscotte.
Pas loin. Effectivement, Émile Zola est mort en 1902 à Paris. La biscotte est inventée, figurez-vous, en 1903 à Nanterre par un boulanger qui s'appelait Charles Eudebert.
Oui. Oh non, mais c'est scandaleux, au secours Stéphane, 1903-1902.
Ah oui, ça fait un an.
On a dû renforcer la difficulté du quiz, parce que vous étiez trop fort.
Mais oui.
Donc maintenant, vous êtes trop nul.
Oh la vache. Mais là, ça devient n'importe quoi.
Pour le moment, qui mène? Non, juste pour savoir.
Pour le moment, c'est Émeric Caron qui mène. Non, calmez-vous. Et d'ailleurs, Émeric Caron va pouvoir l'emporter peut-être sur vous deux, puisque c'est la dernière question.
Non, mais j'ai marqué autant de points qu'Émeric.
La dernière question est une question de rapidité, et elle s'adresse à tous les trois. Le 18 mai 1969, c'est la mission spatiale Apollo 10. C'est une dernière répétition avant Apollo 11, celle où pour la première fois des hommes vont marcher sur la Lune. Comment va faire la NASA pour que les astronautes d'Apollo 10 ne décident pas au dernier moment d'aller jusqu'à la Lune ? Et ils peuvent être tentés. Trois propositions. 1. Leurs réserves d'oxygène sont volontairement limitées. 2. On ne leur a pas mis assez d'essence pour repartir. Ou 3. La NASA leur a promis une rencontre avec Marilyn Monroe à leur retour sur Terre.
Moi, je dirais 3.
Ouais, Marilyn Monroe.
Vous dites la même chose. Oui, Émeric.
Cette hypothèse sur laquelle ils iraient jusqu'à la Lune, déjà, moi, elle me paraît pas plausible.
On prie pas.
Ce sont des gens qui sont tellement conditionnés pour faire ce qu'on leur demande de faire.
Bah pourtant, la NASA a pris une décision pour qu'au dernier moment, ils jouent pas les héros, ils se disent on est si prêts, on y va.
Mais Marilyn Monroe, dans ce cas-là, n'aurait aucun sens. Puisque
je suis assez d'accord. Ils n'ont pas eu assez d'essence.
C'est l'essence. Bonne réponse d'Emery Caron qui remporte le quiz.
C'est scandaleux.
Deux astronautes sont dans un module lunaire. Et moi j'avais vu un reportage là-dessus, c'est fascinant. Deux astronautes sont dans un module lunaire à 15 km de la Lune. Imaginez, à 15 km de la Lune, ils ont assez de carburant pour allunir et être les premiers hommes à le faire. Mais ils n'en ont pas assez pour repartir. La NASA estimait qu'il y avait un risque pour que les pilotes veuillent au dernier moment inscrire leur nom dans l'histoire, les coquinous.
Je suis très déçu par la NASA.
Je gagne quoi ?
La nature humaine.
J'ai gagné quoi ?
Vous avez gagné un mug Stéphane Bern. Merci, Émeric Caron. Peut-on imaginer une deuxième heure plus folle que celle que nous venons vivre, Stéphane ?
Oh, ça serait dingue.
Et pourtant, c'est ce qui nous attend, puisque nous allons vous raconter la vie de deux illustres végétariens. Le premier a arrêté de manger de la viande en 1472. Le deuxième s'est converti un peu plus tard. Il a mangé sa dernière oreille en 1997. Léonard de Vinci et Mike Tyson au programme d'une même émission. C'est du jamais vu, c'est sur Europe.
Sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour Historiquement vôtre, l'émission d'histoire la plus décoiffante de la bande. Regardez Mathieu Noël, il est tout décoiffé.
Oui Stéphane, avec toutes ces aventures, je dois confesser que mon brushing en a pris un coup et ce n'est pas fini. Une deuxième heure de gai savoir nous attend. Deux heures pour découvrir trois figures de l'histoire qui a priori n'ont rien en commun, comme par exemple aujourd'hui Pythagore, Léonard de Vinci et Mike Tyson. C'est vrai Stéphane, comme ça de but en blanc, on voit pas le rapport. Pythagore n'a jamais boxé, Mike Tyson n'a jamais réussi à calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle et Léonard de Vinci n'a jamais mordu l'oreille d'un partenaire, ou alors seulement avec son consentement. Leur unique point commun, c'est qu'ils étaient ou sont devenus végétarien.
Absolument Mathieu, on a tendance à penser qu'être végétarien c'est une mode. Eh bien pas du tout. C'est une tradition ancestrale pratiquée depuis la Grèce antique. Nous avons évoqué Pythagore, le pionnier des végétariens. Nous allons dans cette deuxième heure découvrir l'histoire de Léonard de Vinci, un récit 100% vérifié historiquement, enfin a priori, contrairement à votre chronique Mathieu, justement intitulée 99% vrai, un portrait de Mike Tyson qu'on espère pour vous qu'il ne va pas entendre.
Oui, heureusement je crois savoir que Mike préfère le son pop rock d'RTL2.
Au programme de cette deuxième heure également, Olivier Pouls, qui est à la cuisine, Scan Roumanoff est à l'humour, à savoir un maître incontesté, nous racontera l'histoire d'un plat, histoire de nous donner envie de manger, et même à 5h de l'après-midi, c'est possible. Et notre invité, le journaliste et militant antispéciste Émeric Caron, est toujours avec nous à l'occasion de la sortie de son livre « La revanche de la nature, 27 leçons pour un monde d'après ».
On n'en fera peut-être que 26 parce que le temps nous est compté, mais on en fera.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Alors, tout ça est bien joli, Stéphane, mais la France n'y tient plus. La France attend que vous parliez de Vinci, qui n'est pas qu'une excellente chaîne de parking, mais également un des plus grands génies de tous les temps. Tellement en avance sur son temps, d'ailleurs, que dès le 15e siècle, et alors même qu'en 2020, des types comme Olivier Pouls n'arrivent pas à se fourrer dans la tête que s'enfiler des steaks frites à chaque repas est mauvais pour la santé, Léonard de Vinci, lui, devenait végétarien. En tout cas, il en parlait.
Historiquement vôtre. Le récit.
Léonard de Vinci est en effet l'homme de tous les savoirs, le génie par excellence. Inventeur de talent, artiste complet, savant, philosophe et grand humaniste, il incarne parfaitement les idéaux de la Renaissance, dont il est très certainement la plus illustre des figures. Cette période de faste est celle de la redécouverte de la littérature, des arts et de la philosophie issue de l'Antiquité, après des siècles obscurs marqués par les épidémies, les famines et les guerres. Léonard de Vinci évolue dans une époque humaniste où l'homme est remis au centre du monde. Mais grand amoureux de la nature, lui se distingue par son refus de considérer les animaux comme inférieurs aux hommes, jusqu'à refuser de s'en nourrir.
Même pas une petite tête de veau sauce gribiche de temps en temps.
Mais certainement pas. Pour comprendre son choix, revenons au tout début de sa vie. Une vie qui a commencé le 15 avril 1452, au cœur de la nuit, dans une ferme d'Anchiano, non loin de la petite bourgade toscane de Vinci. Il est le fruit des passions illégitimes qu'ont entretenues Caterina di Meolippi, jeune paysanne âgée d'une quinzaine d'années, et Ser Piero, un riche notaire, bientôt ambassadeur de la République florentine. Enfant de l'adultère, le jeune Léonard est recueilli par son grand-père paternel, Antonio da Vinci. Il grandit à la campagne, imprégné de culture paysanne, entouré de vignes, de livrées et de vastes collines, dont il observe avec émerveillement la transformation au gré des saisons. Léonard aime par-dessus tout les chevaux qu'il observe dans les écuries de son oncle Francesco. Le jeune garçon, qui fascine très tôt les adultes par son intelligence et sa finesse d'esprit, développe une infinie passion pour la terre nourricière et les animaux qui la peuplent. Son éducation se fait au contact de la nature, dont il reproduit chaque détail dans d'innombrables dessins.
Moi aussi, quand j'étais petit, je peignais d'admirables chevaux, Stéphane. Ah, des Voltaire, justement.
Ah, je ne savais pas, vous m'aviez parlé que de vos soleils.
Oui, j'en ai aussi, je vous montrerai des photos.
Cette campagne qui l'inspire tant, Léonard la quitte à la mort de son grand-père. Il rejoint alors son père biologique, installé à Florence. La cité toscane, régie par la puissante famille des Médicis, est le berceau des arts de la Renaissance. Là-bas, le jeune Léonard se trouve au milieu de l'élite intellectuelle et politique de la péninsule italienne, qui n'existe pas encore en tant que telle. Son père, qui a remarqué ses talents de dessinateur, fait entrer Léonard vers l'âge de 12 ans comme apprenti dans l'un des ateliers les plus réputés de la région, celui de l'artiste Andrea del Verrocchio. Il y pratique la peinture et la sculpture au contact de célèbres apprentis tels que Botticelli ou les Pérignons, futurs maîtres de Raphaël. Léonard est un élève perfectionniste et curieux de tout. Au cœur de l'agitation florentine, il n'oublie pas les paysages qui l'ont vu grandir. Son premier dessin daté, réalisé en 1473, représente d'ailleurs une vallée de Toscane, non loin de sa ville natale. On dit de ce dessin qu'il est le premier vrai paysage de l'histoire de l'art. Et bientôt, l'élève de Vinci dépasse le maître del Verrocchio. De Florence à Milan, de Venise à Rome, Léonard acquiert une solide réputation d'artiste et travaille des décennies durant au service des plus influents ducs italiens. D'abord peintre virtuose du clair-obscur, il se révèle tour à tour scientifique autodidacte, infatigable inventeur ou même ingénieur militaire. Parmi ses plus célèbres réalisations, on compte la Seine, immense peinture murale représentant le dernier repas de Jésus, ou l'homme de Vitruve, emblématique dessin que vous avez forcément vu, n'est-ce pas, d'un homme aux proportions idéales.
C'est l'affiche Manpower, non ?
Ils l'ont pris. En avance sur son temps, ce grand visionnaire imagine aussi bon nombre de machines remarquables, comme l'ancêtre du téléphone dont il réalise des plans très précis. Mais il faisait des tanks, des avions, des hélicoptères, il a fait tout ça.
Des tanks, des avions et des hélicoptères. Oui. Tout ça est sourcé, Stéphane.
Absolument. Il faut aller au Clos Lucé, je vous emmènerai un jour si on a du temps.
Justement, avec vous, en plus, on ne fera pas la queue, donc ça sera bien.
Je ne sais pas, vous savez. Bon, la Joconde, vous connaissez la Joconde ?
Ça, je connais un petit peu.
Ce sourire énigmatique. Eh bien, en parlant de la Joconde, si l'imagination de Léonard de Vinci est sans limite, c'est aussi un procrastinateur. C'est difficile à dire l'après-midi. Procrastinateur.
Bien.
Procrastinateur chronique. C'est-à-dire, il remet au lendemain ce qu'il peut faire le jour même. Incorrigible perfectionniste, il n'a laissé que très peu de tableaux totalement achevés et n'a jamais fait publier ses écrits. La Joconde, peinture la plus populaire de tous les temps, est d'ailleurs une commande que Léonard de Vinci n'a jamais honorée. Commencé à Florence en 1503, le portrait de Mona Lisa et son énigmatique sourire est retouché par le maître jusqu'à sa mort en France, 16 ans plus tard. Mais il existe de précieux trésors que le maître nous a légués par centaines. Toute sa vie, le génie de Vinci remplit en effet d'innombrables carnets. Fin observateur de la nature et des hommes, il noircit des milliers de pages de croquis et de figures géométriques, de planches anatomiques et botaniques, mais aussi de nombreux questionnements philosophiques. Et s'il démontre l'insatiable curiosité du maître et son génie universel, ses manuscrits confirment aussi son grand attachement aux animaux. Car Leonari écrit son indignation face à la cruauté des hommes envers ceux qu'il considère comme ses pairs. Dans le Codex Atlanticus, l'un de ses recueils de notes, il écrit « révolté » que le cœur des hommes est une sépulture pour d'autres animaux et qu'ils entretiennent leur vie grâce à la mort d'autrui. Depuis sa plus tendre enfance, lui se sent proche de tous les animaux et refuse donc de les manger. Alors de quoi l'assiette de Léonard de Vinci est-elle composée? Je vais vous le dire, Mathieu.
Je vous préviens, Stéphane, si on apprend que de Vinci bouffait des brocolis à la vapeur, je me désabonne du Louvre.
Hein. Oui, il va falloir patienter un tout petit peu.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue. Et si seulement, Stéphane, on pouvait entendre nos auditeurs de l'autre côté du poste, je suis sûr qu'ils sont très excités à l'idée d'entendre la fin de votre portrait de Léonard de Vinci.
Je suis déjà tout dur.
Voyez, Stéphane, ne les décevez pas. Vous nous parliez du régime alimentaire de Léonard de Vinci.
Oui, vous l'avez compris, Mathieu, dans l'assiette de Léonard de Vinci, point de viande, mais des fruits, des légumes, des céréales, des pâtes et du minestrone, soupe de légumes dont il se régale très souvent. Il s'interroge même sur la consommation des œufs.
Ah bon?
Oui, mais c'est
bah ça beaucoup fait pas de, mal à la poule de faire des œufs quand même.
Oui,
Émeric mais, Caron qui est toujours avec nous, vous trouvez ça... C'est une question que vous posez ou pas? Vous mangez des œufs?
Non, je ne mange pas d'œufs, sauf des œufs de poule en liberté et qu'on ne tue pas. Vegan, en principe, ne mange pas d'œufs.
Oui.
Moi, je fais partie des véganes qui acceptent de manger les œufs que je viens de vous décrire, de vous préciser. Parce qu'en fait, le problème, pardon, je vais essayer de faire très court.
Oui, oui.
Le problème des œufs, c'est comment on obtient ces œufs. Et notamment, première étape, on tue tous les poussins mâles qui naissent.
C'était incroyable. Je crois qu'il y avait un amendement qui était passé qui a été retoqué là-dessus. C'est incroyable.
Oui, c'est premièrement. Et deuxièmement, c'est les conditions d'exploitation des poules.
Oui.
Alors, il y a les élevages industriels où là, c'est absolument abominable. Vous avez vu toutes les images des vidéos, ils sont tassés dans des cages, etc. Et puis, même aujourd'hui, là où on veut être un petit peu plus respectueux, vous savez, sur les œufs, aujourd'hui, vous avez des numéros 0, 1, 2, 3. Voilà. Et donc, 0, en principe, c'est super, c'est du plein air, etc. Mais même dans ces élevages-là, la poule, au bout d'un an, elle est quand même exténuée et envoyée à l'abattoir parce qu'elle produit moins. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas.
Et vous nous expliquez comment trouver des œufs dont on sait que les poules n'ont pas été tuées.
Alors, moi, juste une solution, je ne mange que les œufs de mes propres poules.
Ah,
ça, c'est bien.
Ça, c'est bien.
Oui.
Bravo.
Mais voilà, bon, je vous raconterai ça si ça intéresse les gens. Alors, des œufs, il parle, voilà ce que dit Léonard de Vinci. Des œufs qui, une fois mangés, ne peuvent produire de poulet. Oh, qu'ils sont nombreux, ceux qui ne jamais naîtront. Pardon, je m'en étouffe d'ailleurs.
C'est vrai que
c'est le jaune. Si Léonard de Vinci adopte un régime végétarien, voire même végétalien, c'est qu'il ressent un profond respect pour chaque animal. De lui, ses amis disent d'ailleurs qu'il n'oserait même pas tuer une puce.
Une puce, parce que tuer un pouce.
Je sais pas, j'ai voulu faire le mélange entre la puce et la poule, et ça fait une puce.
Ça a fait une puce, un nouvel animal sur lequel il faut veiller aussi.
Alors, dans les carnets de Léonard de Vinci, on peut dire qu'il refuse de considérer l'humain comme un être supérieur au reste du monde vivant. Aux bêtes, quelle que soit leur espèce, ils prêtent une intelligence et une sensibilité similaires à celles des hommes. On pourrait donc dire aujourd'hui qu'il est un précurseur de ce qu'on appelle l'antispécisme. Comme Pythagore, dont la pensée l'inspire, Léonard de Vinci préfère se vêtir de lin plutôt que de porter ce qu'il considère comme un être mort. Et à l'image du maître de Samos qui rendait à la mer ses poissons, on raconte que la vue d'oiseaux en cage est si insupportable au génie toscan qu'il les achète par dizaines pour leur rendre leur liberté de voler.
D'où tous ces pigeons qu'il y a sur toutes les places d'Italie maintenant, aujourd'hui. Voilà, on en paye le prix aujourd'hui. Merci. Oui.
Sachez surtout, Mathieu,
Léonard,
que si les oiseaux passionnent Léonard, c'est qu'il chérit le rêve d'un jour faire voler les hommes. Il est convaincu que l'étude des volatiles et leur mouvement leur permettra de concevoir un engin capable d'élever l'homme dans le ciel. Et d'ailleurs, l'une des plus célèbres machines imaginées par le maître est une machine volante appelée vis aérienne. Elle est considérée comme l'ancêtre de l'hélicoptère, mais n'a jamais quitté la terre ferme. Jusqu'à la fin de sa vie, ce grand sage à la barbe et aux cheveux longs peint, écrit imagine et conçoit. Devenu peintre du roi François Ier, il quitte l'Italie pour la France, avec ses tableaux sous le bras d'ailleurs, et investit sa dernière demeure en 1516 à Amboise, au Clos Lucé, on appelle ça le château du Clou à l'époque. Il meurt le 2 mai 1519 à l'âge de 67 ans, laissant un héritage de génie qui suscite encore beaucoup d'admiration. On l'a vu avec l'exposition qui a eu un succès fou, évidemment, sur Léonard de Vinci. En tout cas, voilà, il était un des premiers antispécistes.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Alors Stéphane, loin de moi de l'idée de dire que vous avez raconté n'importe quoi, mais Aymeric Caron, journaliste de Son État, présent dans notre studio, a fait plusieurs mouvements de tête de droite à gauche, puis de gauche à droite, laissant penser, comme dirait Camélia Jordana, que...
Non,
Léonard de Vinci n'était peut-être pas vraiment végétarien au sens où on l'entend aujourd'hui. Pourtant, votre récit était parfaitement documenté, s'appuie sur des ouvrages référencés. Qu'est-ce que vous en pensez, Aymeric Caron, Léonard de Vinci, grand végétarien ?
Non, mais j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Simplement que lorsque moi, effectivement, j'avais fait des recherches sur les végétariens célèbres, alors j'ai pas passé non plus 3 mois sur le cas Léonard de Vinci, mais j'ai passé un petit peu de temps et j'avais pas trouvé d'éléments qui étaient très très convaincants, sachant que beaucoup d'informations qu'on a sur Léonard de Vinci viennent en fait d'historiens. Et donc je pense que beaucoup des informations qui ont été citées sont tirées de biographies, probablement, plus que de citations elles-mêmes, sauf sur les œufs, sur l'amour des animaux, ça oui. Mais est-ce que ça allait jusqu'au fait de ne pas les manger, ces animaux ? Il me semble, et je fais entièrement confiance à Stéphane et à votre équipe, il me semble qu'il n'y a pas de déclaration extrêmement claire sur ce sujet émanant de Léonard de Vinci lui-même, me semble-t-il.
Mais au fond, et quand bien même,
le tout, c'est que l'idée soit là.
L'idée, c'est-à-dire qu'au fond, dans tous ses écrits, il défend cette idée qu'on doit être sensible à l'animal et le respecter en tant que tel. Donc au fond, c'est le message que vous essayez de faire passer.
Tout à fait. De toute façon, je dis aussi que lorsqu'il y a des petits débats entre végétariens, véganes, flexitariens, les gens qu'on appelle en transition, je refuse qu'on aille juger, fustiger un tel ou un tel parce qu'il continue à manger un peu de viande. Ce qui est extraordinaire, ce qui est formidable, ce qui peut réunir les gens, c'est ce même mouvement de prise de conscience de l'intérêt à vivre des animaux et la volonté de faire progresser ces droits des animaux. Et chacun ensuite... à son parcours personnel.
Mais son curseur, son... où il veut. Mais quand vous voyez, par exemple, des antispécistes qui attaquent des boucheries, on a vu des excès aussi. C'est
assez... Qui desservent la cause.
Sans doute, je ne cautionne pas les attaques de boucheries, mais ce sont quand même, il faut bien le dire, des actes extrêmement minoritaires, en réalité, qui ont été, me semble-t-il, surmédiatisés par rapport à leur poids réel, par rapport au combat des militants pour les droits des animaux en France et des antispécistes en général. Qui, pour 99,9% d'entre eux, militent toujours très pacifiquement.
On continue de parler avec Aymeric Caron des végétariens. Comme dirait l'autre, on regarde le monde changer dans un instant sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
En cette semaine de reprise, après une dure journée de travail masquée, conformément aux nouvelles règles de santé publique,
un cavalier,
vous ambitionnez de rentrer chez vous plus détendu, mais si possible également plus instruit. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec l'humble mais brillantissime Stéphane Bern. On dresse le portrait cet après-midi de 3 personnages célèbres, Pythagore, Léonard de Vinci et Mike Tyson. Aymeric Caron, je crois que vous n'êtes pas hyper pointu en boxe anglaise. En revanche, vous touchez votre bille sur les végétariens. Notre thème du jour qui réunit ces 3 olibrius, que je peux me permettre de qualifier ainsi, car ils sont soit morts, soit ils maîtrisent très mal la langue de Molière. Mike Tyson ne nous écoute pas, j'espère. Aymeric, comment, à quel moment on franchit ? Vous dites, c'est bien qu'il y ait une prise de conscience. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Je prends mon exemple personnel. Je suis d'accord quasiment avec tout ce que vous dites. J'aimerais, dans l'idée d'être végétarien, m'en approcher. Le goût de la viande, je suis désolé, les plaisirs de la table font que je n'y arrive pas. J'aime trop ça. Comment, vous, personnellement, ça fait 30 ans que vous êtes végétarien. Est-ce que vous étiez...
Et vegan depuis quelques années.
Depuis quelques années, voilà. Comment on franchit le pas entre prise de conscience et, dans les faits, voilà, ne plus manger de viande, jamais.
Je crois que ça dépend du cas de chaque personne. En ce qui me concerne, je suis né antispéciste. C'est-à-dire que j'étais petit, j'étais enfant, et je demandais autour de moi, mais pourquoi on mange les animaux ? J'éprouvais vraiment une compassion, j'éprouvais de l'intérêt, je ne supportais pas de voir souffrir un animal, etc. Et ce sont les adultes qui m'expliquaient que je devais manger les animaux. Donc, il y a une déconstruction, en fait, de mon intuition naturelle pour me forcer à adopter le régime de tout le monde, de monsieur et tout le monde. Et en fait, ensuite, j'ai pris quelques années, puisque je suis devenu végétarien complètement à l'âge de 20 ans, mais j'ai commencé à changer mon alimentation vers l'âge de 12-13 ans, après un déclencheur qui était que j'ai vu un jour dans une ferme des petits moutons, des agneaux qui venaient de naître, lorsque j'étais en vacances à la ferme, et que j'ai demandé aux fermiers, ils sont formidables, ils sont adorables, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et puis très naturellement, ils m'ont dit, ils vont grandir un peu, puis on va les manger. Et là, tout à coup, j'ai fait le lien très concrètement avec le gigot que je mangeais le dimanche chez ma grand-mère, puisque ma famille, on n'était pas végétarien. Et là, il y a eu un déclic. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à baisser ma consommation de viande. Voilà, je vais pour résumer très, très, très vite.
Ça peut être progressif, voilà.
Donc ça peut être progressif. Et puis à 20 ans, je suis devenu complètement végétarien et vegan il y a quelques années. Je crois qu'ensuite, en ce qui me concerne, je n'ai pas de mérite, puisqu'il y a un moment où j'éprouvais du dégoût. Vraiment, à l'âge de 20 ans, à l'idée même de manger. Le dernier steak que j'ai mangé, je m'en souviens très très bien. Je m'en souviens très bien ce que j'ai dit aux gens qui étaient avec moi, ou le corps, mes
parents. C'est le dernier.
Vous ne me verrez plus jamais manger un bout de viande. C'est dégueulasse. C'est-à-dire, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus manger une pièce avec du sang qui dégouline, etc., de savoir d'où ça venait, de quel animal, etc. Donc voilà, chacun ensuite va mettre son curseur. Et le fait que vous-même vous disiez, j'aime trop la viande, je comprends. Nous sommes éduqués à ça, nos papilles gustatives sont éduquées, sont conditionnées. Mais ce n'est pas grave, parce que vous, peut-être que vous êtes baissé un peu votre consommation, vous avez peut-être quelques animaux, vous n'allez plus manger. Il y a quand même des modifications qui s'opèrent, que vous allez peut-être transmettre à vos enfants, à votre entourage, et puis ce sera la génération prochaine qui, elle, aura déjà mangé moins de viande que vous et qui, elle, dira à un moment, moi j'arrête complètement.
Mais ça pose un problème pour... je ne parle pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan de notre société. C'est-à-dire que si on ne mange plus les animaux qui sont élevés, par exemple, les agneaux, les moutons, les veaux, etc.
Il faudra réinventer...
C'est-à-dire on ne va plus les élever. Dans ce cas-là, vous...
Bien sûr.
Donc des espèces vont disparaître parce qu'on ne va...
Vous prenez les vaches, par exemple. Les vaches, ce n'est pas nous qui... C'est pas grâce à nous qu'elles vivent, qu'elles sont apparues. Ce sont des aurochs d'abord qui ensuite ont été transformées génétiquement. Alors pas par les techniques actuelles, mais par des techniques très naturelles qui étaient des techniques de croisement pour sélectionner tel et tel animal, etc. etc. Donc, et pour devenir aujourd'hui des vaches et des bœufs. Et bien tout simplement, les animaux que l'on produit, puisque j'appelle ça la production aujourd'hui pour notre nourriture, ne seront plus produits et ce n'est pas grave parce que faire naître des êtres sensibles pour qu'ils aient une vie de martyr, pour 99% d'entre eux, parce que bien sûr, vous pourrez toujours me citer le petit élevage, qui est l'exception où ils sont assez bien traités pendant les quelques années de leur vie. D'accord, mais la plupart des animaux, les agneaux par exemple, ça ne vit que quelques semaines, les cochons quelques mois, et dans des conditions bien souvent atroces. Donc autant ne pas les faire naître, bien évidemment, et on pourra redonner la liberté en tout cas, à l'espèce originelle que nous avons, nous, transformée. Voilà, il y a des sangliers, ils existent toujours, les sangliers. Hein, le cochon, le sanglier, c'est
les sangliers, famille. Par exemple, vous savez très bien qu'il y en a un surnombre et qu'ils détruisent
les sangliers. Les sangliers, on n'y touche pas.
Et le maïs, ils détruisent les champs des ailes des
paysans. Et vous savez aussi que les chasseurs en élèvent en surplus pour les tuer, pour en avoir davantage à flinguer. Donc, évidemment qu'il faut s'interroger sur les rapports que nous avons avec les animaux, rapports en termes de nombre également, une manière de les réguler. Vous savez qu'il y a des manières aussi de réguler les animaux qui ne sont pas barbares.
La contraception.
Oui, ça existe, tout à fait.
Mais moi, je ne vais pas aller mettre un préservatif à un sanglier.
Non, mais vous pouvez le faire, par exemple.
C'est une phrase qui
vous
sera...
Vous pouvez le faire, par exemple, pour des pigeons, c'est-à-dire qu'on met dans leur nourriture des aliments... Non, pas du bromure, mais des aliments... Ah, vous voyez, c'est encore un peu dur d'en parler sérieusement, quand même, de ces sujets.
C'est vrai, mais on peut rire aussi. Vous n'êtes pas non plus un ayatollah, comme dirait...
Vous voulez qu'on en parle?
Vous avez vu son revirement à Dupond-Moretti, notre ministre, il est allé voir les écolos, il leur dit, vous ne voulez pas des ayatollahs.
Il n'a pas manqué de cours. C'est drôle parce qu'en plus, dans la préface dans laquelle il emploie ce mot, il s'en prend à moi directement, nommément. Je m'en suis rendu compte après. Je suis cité.
Vous êtes l'emblème.
Je suis l'un des emblèmes des ayatollahs, absolument, puisque je ne mange pas de viande. Et j'ai découvert que j'étais pour lui l'une des incarnations des ayatollahs. Son revirement, ceci dit, est extrêmement faible.
Il ne quitte pas la chasse. Stratégiquement, on comprend en tout cas ce qu'il fait.
Stratégiquement, je lui dis, bon alors, la chasse à glu... J'ai bien réfléchi.
C'est pas si bien que ça.
Non, car ce n'est pas sélectif. J'ai donc décidé que finalement, je serai opposé à la chasse à glu. Il a encore du chemin à faire.
Dans votre dernier livre, La Revanche de la Nature, vous dites, je cite, que la pandémie de Covid-19, qui a stupéfié la planète, est un avertissement et c'est peut-être le dernier. Nous sommes allés trop loin dans la destruction des écosystèmes et la maltraitance animale. Vous pensez que c'est le dernier avertissement. Il faut vraiment changer maintenant.
Ça, c'est une formule, bien évidemment. Il y en aura peut-être encore un autre qui sera un petit peu plus grave. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a sous-estimé la dimension écologique de cette pandémie. On a un petit peu parlé au début, puis on a complètement abandonné ce sujet. La pandémie a été favorisée, sinon provoquée, par notre manière de traiter les vivants, puisqu'on sait que les virus, et la diffusion des virus est favorisée par la destruction des forêts, des écosystèmes, et qui fait que un certain nombre d'espèces, tout à coup, se rapprochent des humains. Donc, évidemment, ce sont les échanges.
En plus, on mange du pangolin et de la chauve-souris.
Et d'autre part, dans notre traitement des animaux et des animaux sauvages, en l'occurrence, ce sont des animaux qui ne devraient pas être là où ils ont été, c'est-à-dire sur des marchés, dans des conditions sanitaires absolument atroces. Et c'est bien notre manière, aujourd'hui, de traiter le vivant, de détruire des forêts, de maltraiter des animaux dans des élevages, qui favorise aujourd'hui la diffusion oui, des pandémies. Donc, je dis qu'aujourd'hui, c'est une pandémie, c'est un virus. Demain, ce sera un autre phénomène qui nous touchera et qui sera également provoqué par notre manière absolument abominable aujourd'hui de considérer le vivant.
Alors attention, Aymeric, je préfère vous prévenir d'avance. Il y a quelqu'un peut-être qui est encore plus loin de vos idées que Dupond-Moretti. C'est la personne qui vient de s'asseoir côté de vous.
Je connais ce monsieur.
Vous avez déjà dû débattre avec lui. Il n'y aura pas de gants de boxe. Mais Olivier Pouls nous a rejoint en studio.
Europe 1.
Comme avant lui, Pythagore puis Léonard de Vinci, Olivier Pouls, notre expert gastronomique, a toujours eu un profond respect des animaux. Des animaux qu'il aime énormément, surtout bien saignants et cuisinés à la plancha avec quelques branches de romarin. Certains estiment que c'est un pervers rétrograde.
Moi, je trouve ça assez jouissif de tripoter, de malaxer cette viande.
Avec Stéphane, on préfère le présenter comme un honnête défenseur du terroir. Chaque après-midi, Olivier nous raconte l'origine d'une recette et c'est souvent gratiné.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Si je devais comparer historiquement vôtre à un gâteau.
Alors attention Stéphane, c'est une pente glissante que la comparaison pâtissière. Hier, l'histoire de la grosse profiterole, on a frôlé le lapsus.
Non, ne vous en déplaise mon cher Mathieu, historiquement vôtre est une sorte de gros millefeuille.
Non merde.
Oui, un millefeuille. Oh, une couche de rire, une couche de savoir, une couche de rire, une couche de savoir. On a l'impression que c'est énorme et pourtant en bouche ça passe très bien. C'est très
pas
léger.
Sûr d'avoir compris qui ou quoi était léger en bouche. Lui, en tout cas, il sait filer la métaphore pâtissière, le gras et sa passion, le sucre, sa maîtresse. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission qui me sied comme un gant.
Bah oui, forcément, l'émission des végétariens.
Les végétariens, les végétaliens, les véganes, etc.
Mais donc, qui sait Olivier, peut-être que vous prendrez ce chemin un jour quand la sagesse vous tombera dessus par hasard.
Soit je faisais valoir mon droit de retrait aujourd'hui, poser une journée de RTT, je ne venais pas, ou je venais vous parler de quinoa, de boulgour.
Ça peut être bon aussi.
Eh ben non.
Ah non.
Eh ben non. Aujourd'hui, je vais vous parler du steak tartare.
Oh,
un emblème de la gastronomie. Écoutez, je connais Aymeric Caron, on a déjà eu l'occasion de discuter. Et je tiens à dire que je respecte parfaitement les gens qui ne mangent pas de viande. Ça ne me pose strictement aucun problème.
Tant
au contraire, ça en fait plus
pas,
pour moi.
Donc, ça n'empêche pas vous d'en bouffer.
Alors, le steak tartare, qui aujourd'hui est un emblème quand même de la bistronomie, on pourrait dire, française. Alors, vous savez, la cuisine aime beaucoup les légendes. Et les légendes un peu croustillantes. Alors, on attribuerait l'origine du steak tartare au peuple, les tartares d'ailleurs, peuple qui au 11e siècle étaient les alliés des Mongols, chevauchaient dans ces grandes plaines de l'Est de l'Europe et qui avaient une tradition, dit-on, de manger de la viande crue, alors de la viande de cheval en plus.
Ah bah, encore mieux.
Et qu'ils découpaient en fines lanières, qu'ils mettaient ensuite entre le cheval et leur selle, et ils galopaient avec cette viande.
Avec la transpiration, ça faisait cuire.
C'est une légende.
Et surtout, ça attendrissait la viande. C'est probablement ça qu'effectivement le peuple faisait. Mais notre steak tartare d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ces pratiques.
Vous me rassurez un peu, sinon je vais devenir végétarien encore plus rapidement.
Enfin, vous voyez pas des chevaux courir autour de Paris pour attendrir la viande.
C'est vrai.
Non, le steak tartare tel qu'on le mange aujourd'hui, il vient plutôt d'une tradition du 19e siècle et une raison pour laquelle on s'est remis à manger de la viande crue parce que durant le Moyen-Âge, on avait oublié totalement cette pratique, pour des raisons qu'on comprend bien, vous imaginez l'hygiène, on avait plutôt tendance à cuire beaucoup et à faire bouillir la viande plutôt qu'à la manger crue. Et au 19e siècle, pour une raison que je vous invite à deviner, on se remet à manger
à
de la viande crue. À partir des années 1860.
Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que c'est pour avoir du fer, pour avoir des éléments parce que ça dopait le sang. Ouais.
C'est une raison totalement médicale. Oui. Le corps médical de l'époque considère que manger de la viande crue, c'est excellent pour la santé. Notamment, ça retape les malades. Alors, à l'époque, il faut savoir que la viande crue, elle ne se mange pas dans les bistrots, elle se mange dans les hôpitaux. On va jusqu'à 800 kilos de viande crue par jour dans les hôpitaux français. Alors, la viande crue, comme ça, ce n'est pas très très bon, donc il faut l'accommoder.
Donc, on invente tous ces assaisonnements.
On invente des assaisonnements, et puis progressivement...
La sauce Worcestershire, un peu d'origine anglaise,
qui sert à accommoder le tartare. Parce que le tartare, aujourd'hui, c'est quand même un truc qu'il faut faire sérieusement. Et là, je lance un tout petit coup de gueule envers nos amis les restaurateurs, parce que trop souvent, quand on mange du steak tartare au
restaurant... Ils n'ont pas besoin de coup de gueule en ce moment, les amis restaurateurs.
Non, mais
ils viennent à peine d'ouvrir, certains doivent refermer, et vous les engueulez.
Et on confond souvent steak tartare et bouillie pour bébé. Et vous avez steak tartare, vous savez qu'ils sont trop passés à la machine. Il faut le couper au couteau.
Mais
voilà la règle d'un bon vrai steak tartare.
Attendez, je prends des notes. c'est vrai que j'ai tendance à le faire un peu trop.
Ça fait 20 ans que j'ai pas dû manger un steak tartare.
C'est vrai.
Alors donc c'est effectivement les règles de l'art, c'est la viande coupée au couteau, du filet de bœuf ou éventuellement, moi j'aime bien avec la bavette aussi. Et puis l'assaisonnement classique, c'est relevé. Votre fameuse sauce Worcestershire, une cuillère de moutarde, un jaune d'œuf cru, très important, des fines herbes, un petit peu d'oignon, on peut rajouter un peu de tabasco ou de piment d'Espelette si on aime que c'est un petit peu de peps. Et puis ben voilà ça. Et alors, ce que je vous engage aussi à essayer, c'est... On mange plus trop de cheval aujourd'hui, donc on va laisser.
Non, mais vous allez loin.
Il y a une grande tradition.
Il n'a pas quitté le studio, et là maintenant.
J'écoutais avec grande attention.
Mais vous semblez le regretter, Olivier.
Non, pas particulièrement. Non, franchement, j'ai pas une passion pour la viande de cheval. Et très honnêtement, c'est vrai que ce sont des animaux qui méritent très certainement le respect. J'ai pas vraiment envie de manger du cheval, pour être honnête.
Ah, vous voyez, donc c'est le premier pas, Olivier. Vous le faites un premier pas vers un animal. Le cheval, c'est un premier pas. Bientôt le porc.
De demi coming out.
Oui.
Serait arrivé. Mais par contre, vous pouvez essayer avec le magret de canard, c'est délicieux. Vous enlevez la couche de gras qui est au-dessus. C'est une viande qui se prête très très bien en tartare.
Émeric Caron, j'ai une question parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on n'a pas eu la réponse. Vous nous avez dit que vous mangiez les œufs de poule quand vous saviez que la poule n'était pas tuée. Comment ? Alors moi, j'achète des œufs bio, mais je ne sais pas comment trouver des œufs. J'achète pas ces œufs-là.
Ben non.
Comment trouver des œufs dont on sait que les poules ne sont pas tuées ensuite ?
Qui vont mourir de vieillesse en fait.
Ouais. Alors il y a une marque qui s'est lancée là-dedans.
Faisons de la pub parce que.
Mais oui, faisons de la pub pour cette entreprise. Qui a eu beaucoup d'audace. Non, je suis un très mauvais entrepreneur. Non, mais qui est soutenu en revanche par des investisseurs très sérieux, qui s'appelle Pool House.
Pool House. Voilà. Oh, le jeu de mots est bon.
Voilà, grande pub. Non, c'est très bien ce qu'ils font. Ils recueillent ils prennent des poules. Alors, soit elles sont recueillies, soit vraiment c'est des poussins qui arrivent. Et ils garantissent. Alors, les œufs sont très chers. Mais vous pouvez les trouver quand même dans des
50 euros
dans hypermarchés. Non, c'est pas 50 euros.
Mais il y a une autre solution si vous avez un cône jardin.
Alors ça, c'est l'autre solution.
Moi j'ai 12 poules.
Oui, mais alors, si vous voulez, à Paris, au milieu du 16e arrondissement, Stéphane, à part vous, et donc, les gens ont vraiment des jardins.
Alors, en fait,
je vous expliquerai ça, je vous raconterai. On appelle ça
la
pauvreté.
Mais c'est pas à Paris.
L'inégalité, je vous donnerai des rapports. Vous lirez tout ça.
Alors, et donc, ils garantissent, eux, que les poules ne sont pas tuées lorsqu'elles ne sont plus productives.
Eh bien, je pourrais rejoindre en partie Émeric Caron sur ce sujet parce que je trouve qu'effectivement, la manière dont aujourd'hui on élève dans certaines conditions les poules est inacceptable et il faut boycotter ces œufs-là. Mieux vaut manger du quinoa que des œufs produits dans ces conditions-là. Oui, je suis tout à fait
ou
d'accord.
Alors avoir effectivement une poule chez soi.
Olivier Pouls, Émeric Caron, ensemble, main dans la main. Il n'y a que sur Europe 1 que vous entendez ça.
Europe 1.
Vous l'avez probablement compris à ce stade, tout dans Historiquement Vôtre est dûment vérifié à 100%. Sauf la chronique de Mathieu Noël, qui a obtenu une dérogation spéciale de la direction. Celle de placer dans son portrait 1% de n'importe quoi. Mardi, il a attribué ainsi à Jackie Kennedy et Michel Drucker la création d'un nom de domaine, Jackie et Michel. Heureusement, 99% du récit qui suit est vrai. Le portrait de notre troisième végétarien du jour. Alors, Mike Tyson a-t-il vraiment troqué les côtes de bœuf Black Angus pour les pousses de soja ? Mathieu Noël semble sûr de son coup.
Plus ou moins.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Nous sommes partis ensemble à la découverte de deux grands végétariens de l'histoire, deux précurseurs insoupçonnés du respect animal, Pythagore et Léonard de Vinci. Mais la devise d'Historiquement Vôtre est « jamais deux sans trois ». C'est pourquoi, Mathieu, je vous passe le flambeau de l'histoire. Attention, il est encore très chaud.
Mais pas autant que vous, Stéphane. Car avec notre troisième invité, probablement le plus insoupçonnable des végétariens, nous allons parler de cette chose qui n'est pour vous qu'un concept lointain, presque théorique.
Les muscles. Ils sont à l'homme ce que les pistons sont à l'automobile.
Car des muscles, notre végétarien surprise en a à revendre puisqu'il s'agit de l'ex-champion du monde de boxe poids lourd, Mike Tyson. Alors, vous allez me dire, Stéphane, je m'y connais pas trop en boxe, mais Mike Tyson, à une époque en tout cas, il bouffait pas que du tofu. En effet, un de ses adversaires, le malheureux Evander Holyfield, est toujours traumatisé par ce match de 97 à Las Vegas où, grisé par l'intensité du combat, Mike Tyson, alias Kid Dynamite, avait quelque peu perdu de vue les règles pourtant très codifiées du noble art, comme on l'appelle. Depuis plus de 20 ans, Evander Holyfield ressasse une seule et même question.
Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille ? Quoi pris-tu mon love entre tes dents ? Et me le happas-tu de ta bouche vermeille quand le tango nous grisait d'un rythme troublant ?
Et oui, ce soir-là, le tango de la boxe fut effectivement assez troublant. Et c'est dommage, le grand public ne retient finalement que ça de Mike Tyson, ce croqueur de lobe, alors qu'il est en fait beaucoup plus. Tout d'abord, Iron Mike, c'est une force de la nature. Né à Brooklyn en 1966, à 5 ans déjà, son biceps droit est plus gros que la cuisse gauche de Stéphane Bern. Et très vite, on découvre que Mike est un enfant qui n'a aucunement peur de prendre des coups. Il a une résistance à la souffrance hors norme, à l'inverse là aussi de Stéphane qui reste encore aujourd'hui très précautionneux.
J'ai pas mis de casque, j'ai peur d'être décoiffé.
À Brooklyn, au début des années 70, Stéphane, il n'y a pas encore d'épicerie bio et de bar à jus détox. Hein, c'est la zone, la Tessie, Stéphane. Dans la rue, les enfants s'insultent parfois violemment.
Soyez tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races.
Parfois de manière encore plus violente, Stéphane. Et puis, tant qu'à s'insulter, pourquoi ne pas joindre le geste à la parole en se cognant franchement ? Résultat, à 8 ans, le petit Mike tombe dans la délinquance et à la suite de plusieurs délits, il est placé en maison de correction où très vite, un gardien le repère. Il s'agit de Bobby Stewart, que vous connaissez évidemment, Stéphane, un ancien boxeur qui détecte tout de suite les capacités physiques exceptionnelles de Tyson. Tu m'étonnes, à 13 ans, le gamin pèse déjà 80 kilos. Difficile de ne pas le remarquer.
Pas moi aussi.
Oui, c'est vrai, pour d'autres raisons. Le poids était réparti différemment. Il réussit à le faire transférer dans une autre maison de redressement tenue par un ancien entraîneur de boxe professionnel, Cus D'Amato, qui va devenir un peu le père spirituel de Mike et l'entraîner sans jamais le ménager.
Fais gaffe au coup, j'ai pas ma coquille. Quand tu seras en compète, tu diras pas au type en face, j'ai pas ma coquille.
En quelques mois, Mike devient le meilleur élève de l'établissement. En 80, lors de la finale du tournoi olympique junior des États-Unis, il met KO Joe Cortez dès le premier round. En combien de temps d'après vous, Stéphane ? 8 secondes.
J'aime me battre.
L'autre est au tapis. Sa carrière est lancée, il passe pro, terrasse la plupart de ses adversaires par KO. Il remporte son premier titre de champion du monde poids lourd en 86, 3 autres suivront. Alors, bien sûr, par la suite, sa carrière connaîtra des hauts et des bas. On a déjà rappelé le triste passage de l'oreille mordue. 2003, il échoue encore à retrouver son titre de champion du monde face à Lennox Lewis. Tyson finit par se retirer de la compétition en juin 2005 à 39 ans après avoir essuyé 2 défaites consécutives. Et là, Stéphane, logiquement, que fait-il ? Que fait-on lorsqu'on broie du noir ?
On regarde un film rose.
Alors, pas forcément. Moi, je dirais qu'on passe ses nuits à se refaire l'intégrale de Sicile Impératrice sur NRJ 12 en bouffant seul des pots family size de Ben & Jerry's. Et oui, notre champion prend du poids, beaucoup de poids, et c'est pour se refaire une santé qu'il tombe dans le végétarisme. Selon le site Vegan Actu, qui vous l'imaginez Stéphane est dans mes favoris, Mike Tyson est devenu végétalien pour être en meilleure santé et plus heureux. Il a perdu 45 kilos. Lors d'une interview, à la question « Mangez-vous de la viande rouge ?», il aurait répondu « Pas du tout, je serais très malade si je mangeais de la viande rouge, c'est probablement pourquoi j'étais si fou avant. »
Mais alors qu'est-ce qui devient Mike Tyson ? Depuis qu'il se nourrit d'orge et de baie de goji, il va mieux dans sa tête aussi ?
Eh bien c'est relatif Stéphane, il dit aller mieux. Mais aux dernières nouvelles, quand vous apprenez qu'au moment où nous parlons, il est en train de préparer un combat à main nue contre un requin, il y a quand même de quoi se poser la question. Le végétalisme est-il la panacée ? Aymeric Caron ne ferait-il pas fausse route ? En tout cas, lui, Tyson, n'en démord pas, si j'ose dire. Je cite « Avant, j'étais complètement étouffé par la drogue et la mauvaise cocaïne. » On dira aux jeunes qui nous écoutent à quel point il est important de consommer de la bonne cocaïne.
Ne pas
faire d'économie de bout de chandelle, c'est votre santé qui est en jeu les enfants. Bref, j'étais complètement étouffé par la mauvaise cocaïne. Je pouvais à peine respirer, je faisais de l'hypertension, de l'arthrite, j'étais au bord de la mort. Mais une fois que je suis devenu végétarien, tous ces problèmes se sont atténués. Une pub vivante donc pour le régime végétalien. Sauf que Stéphane, si en kilos il est passé de 175 à 106, aujourd'hui son compte en banque aussi a fondu de 300 millions de dollars au milieu des années 90. Sa fortune actuelle ne serait plus, selon le magazine Forbes, que de 3 millions.
Crotte.
Comme vous dites, Stéphane. Bref,
donc ça coûte très cher d'être végétarien.
Ça coûte très cher, le bilan du végétarisme est mitigé.
Mais ça coûte si cher, les produits qu'ils achètent.
Visiblement, voilà, les compléments alimentaires et visiblement les alternatives aux protéines animales sont chères. Dernière chance peut-être pour Kid Dynamite. En novembre prochain, il doit remonter sur le ring pour affronter Roy Jones lors d'un combat d'exhibition qu'il ne cesse de décaler. Ça sera quitte ou double pour Mike. Soit la victoire et une retraite dorée, soit, Stéphane,
faire la queue à Pôle emploi.
Oui, enfin, vous savez, on peut vivre avec 3 millions de dollars. Hein. C'était pas facile. Il faut compter, bien sûr, mais on peut.
Merci Mathieu, c'était 99% vrai. Votre portrait souvent vacharde de notre troisième invité du jour. Au fait, vous n'avez pas peur un jour de croiser Mike Tyson?
C'est lui qui a peur, il fait 1m78, moi 1m92.
Bon, en tout cas, si vous avez peur, je serai là pour vous aider Mathieu, sachez-le.
Ah non, moi, là, dans ce cas de figure, j'aurais peur là pour le coup.
Je n'ai pas dit mon dernier mot, en tout cas je le dirai dans quelques instants sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on s'intéresse bien sûr aux histoires des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire, mais aussi à l'histoire des mots.
Oui Stéphane, outre notre passion commune pour l'histoire, nous partageons aussi cette curiosité des mots. Pour ma part, c'est ma tante Cathy qui m'a transmis le virus. Elle était fascinée par l'origine des mots et des expressions françaises, leur construction.
Est-ce que tu as remarqué qu'en changeant 5 lettres à coca, ça fait chatte?
Fascinante langue française à travers laquelle vous nous guidez chaque après-midi vers 6h-10. Je suis tout oui Stéphane pour découvrir votre mot de la fin.
Et ça tombe bien mon cher Mathieu, car aujourd'hui, je voulais rendre hommage aux véganes qui sommeillent au plus profond de vous. Mais alors vraiment oui. Très cachés au fond. Oui. Si profond que personne ne l'a jamais trouvé, puisque ce week-end, samedi, pour être précis, ce sera la journée internationale de l'antispécisme. L'antispécisme, c'est le fait de penser que l'humain ne prime pas sur les autres espèces. Dès lors, les antispécistes revendiquent l'arrêt de la consommation des animaux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous posons tous la question, pourquoi dit-on « copain comme cochon » ?
Ah oui.
On se souvient tous du cochon dans Les Bronzés Fourniski. Vous savez, Christian Clavier qui tient un cabinet médical, il y a un sympathique couple de Val d'Isère qui vient avec leur animal pour tenter de le soigner. Le cochon s'appelle Copain. Et Clavier de leur donner cet ordre, mais bouffez-le votre cochon.
Mais bouffez-le. Bouffez-le.
Vous le faites presque aussi bien que Clavier, oui, Stéphane. Oui.
Eh bien, sachez qu'au XVIe siècle, on disait camarade comme cochon. Plus tard, au XVIIIe, ami comme cochon. Mais le mystère reste entier, pourquoi cochon ? Rien à voir avec l'abbé Cochon hein, qui a brûlé Jeanne d'Arc, je vous le dis quand même.
C'est l'abbé Cochon qui a brûlé Jeanne d'Arc ?
Vous n'étiez pas au courant, l'évêque Cochon, il était évêque même.
Avait brûlé, mais je ne savais pas que c'était l'abbé Cochon.
Il s'appelait Cochon, oui. Mais ça n'a rien à voir. Eh bien, cela vient de l'ancien français en fait. Le cochon utilisé ici vient du mot « sauçon », qui voulait dire « camarade » ou « associé ». « Sauçon » vient du latin « socius », qui signifie « compagnon ». La boucle est bouclée. Notez que dans différents pays, des expressions similaires existent. En Wallonie, on dit également « mi vis sauçon », qui signifie « ami comme cochon ». Autre jolie expression pour désigner deux amis inséparables, on dit en Tunisie « racine fichée chia », avoir les deux têtes dans le même chapeau. On dit aussi en France, pour souligner une belle amitié, « être cul et chemise », ce que les Argentins traduiront plutôt « como culo e calzoncillo », « être comme cul et slip ». C'est tout un programme.
Oui, il faut bien reconnaître que nos amis argentins font preuve de plus de bon sens que nous, Stéphane, car le cul et le slip sont techniquement plus proches que le cul et la chemise.
Sauf si, comme moi, on coince la chemise dans le slip afin qu'elle ne ressorte jamais du pantalon.
Ok, vous êtes bien sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre se termine avec Mathieu Noël. On a adoré partager avec vous notre passion pour l'histoire, la grande, la petite, l'insolite.
Oui, personnellement, je nous ai trouvé plutôt bon, mais attention, je ne m'emballe pas pour autant. J'ai vu Meurtre en Lorraine, la fiction de France 3 dans laquelle Stéphane incarne un commissaire de police.
Un gendarme.
Je sais à quel... un gendarme, c'est pareil. Hein. On va chipoter.
Ah non,
hein.
Ah non, c'est pas pareil.
Je sais à quel point il peut être exigeant envers ses équipiers.
On fait quoi maintenant ?
On rentre chez soi et on met son esprit en jachère afin d'être plus performant demain.
Je vais donc, Stéphane, me mettre en jachère. Qu'est-ce qui nous attend demain, commissaire ?
Eh bien, pour fêter le retour de Koh-Lanta demain soir,
ah bon ?
On va s'intéresser aux aventuriers d'avant Koh-Lanta en vous racontant les destins fous de Marco Polo, d'Ella Maillard et de Mike Horn.
Vous avez déjà serré la main de Mike Horn, Stéphane ?
Oui, oui, et je peux vous dire, ma main s'en souvient.
Et moi aussi.
Putain,
salope ! Vous avez déjà rencontré Mike Horn ?
Oui.
Vous vous souvenez de sa poignée de main ?
Non.
Il vous a pas serré la main, probablement.
Ça doit être ça. Je peux dire que lui, il mange pas que du quinoa et du boulgour.
On ne peut pas résister à la poignée de main de Mike Horn. On en parle demain. Merci, Emmerich, d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre, La revanche de la nature, 27 leçons pour construire le monde d'après.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.